Laurent Guillaume, bonjour.
Bonjour.
On a tous en mémoire ce Boeing d'air cocaïne, comme on l'a appelé, qui a atterri en plein désert au nord Mali en octobre 2009. Est-ce que cette époque est révolue ?
Je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, ce moyen de transport par un avion qui est un Boeing 727, qui est donc un avion considérable, dont on imagine que la cargaison devait être entre 7 et 11 tonnes de cocaïne, ce moyen-là n'est pas très discret et je pense qu'on préférera à ce type d'envoi, en gros, qui est un peu risqué, on va leur préférer des moyens avec des avions plus petits, plus discrets, comme par exemple des Beechcraft, des petits bimoteurs, transformés pour traverser l'Atlantique, qui souvent font un saut de puce en passant par les îles Margaritas au large du Venezuela. Et ce mode de transport existe probablement toujours. En revanche, il existe d'autres moyens, peut-être un peu plus discrets. On a eu plusieurs saisies récemment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, de plusieurs tonnes de cocaïne qui ont voyagé dans des véhicules de marque Renault au départ d'une usine qui fabriquait des véhicules Renault à partir du Brésil. Donc tous ces moyens dont on pensait qu'ils étaient dépassés continuent à être utilisés par les trafiquants. Simplement, depuis quelques années, on pense que c'est pas le cas parce qu'en fait, on est persuadé que l'absence de saisie signifie qu'il n'y a plus d'arrivage sous cette forme-là. Simplement, il y a l'absence de saisie signifie que peut-être il y a un phénomène de corruption des élites un peu plus importante et peut-être qu'il y a des méthodes de dissimulation plus efficaces.
Vous décrivez la Guinée-Bissau comme le paradis des cartels de la drogue et vous dites que le président Nino Vieira, qui a été assassiné en mars 2009, a peut-être été victime de ces cartels.
Oui et non, parce qu'en fait, il est victime d'un règlement de compte entre trafiquants, mais pour avoir lui-même été d'une certaine façon impliqué dans ces trafics. Donc Nino Vieira, de très lourds soupçons pesaient sur lui et sur son chef d'état-major des armées, à savoir le général Tagme Nawaye. Tagme Nawaye a été assassiné dans un attentat à l'explosif et quelques heures après, les partisans du chef d'état-major des armées ont assassiné le président de la République. Donc beaucoup de bruit court dans le sens d'un règlement de compte entre deux clans qui se disputaient les bienfaits de cartels sud-américains.
En 2013, l'amiral Bubo Natshuto est pris la main dans le sac par l'agence antidrogue américaine DEA et pourtant il est libéré 3 ans plus tard par la justice américaine. Du coup, vous vous interrogez?
Oui, on se pose véritablement la question de savoir la raison de cette clémence. Beaucoup de monde dont je suis pense qu'il a coopéré avec les services de la DEA et qu'il leur a donné énormément d'informations, ce qui expliquerait qu'il ait négocié une sorte de libération anticipée pour revenir dans son pays.
En préface de votre livre, Pierre Lapac, qui est à l'Office des Nations Unies contre la drogue pour l'Afrique de l'Ouest, écrit que la corruption généralisée des élites est régulièrement la règle. Quels sont à vos yeux les pays les plus corrompus au niveau de leurs élites et on pense notamment à l'administration des douanes?
Alors, là j'aurais du mal à dire ça parce qu'en fait je travaille régulièrement pour divers organismes internationaux avec un douanier sénégalais qui est quelqu'un d'une grande probité. Je ne vais pas faire une sorte de classement des pays les plus corrompus, je n'y crois pas. Dans tous les pays, il y a des fonctionnaires qu'on achète et d'autres qu'on n'achète pas. Et pendant très longtemps, on a montré du doigt la Guinée-Bissau. Les Américains l'ont qualifié de « advanced narco-state », c'est-à-dire « narco-état avancé ». En oubliant très probablement qu'il avait un voisin juste à côté qui, à l'époque de son président, du président Alassane Conté, était largement aussi corrompu. La Guinée-Bissau n'est pas complètement sortie d'affaire, mais je pense que les choses vont beaucoup mieux. Il y a une saisie récente de 800 kilos de cocaïne qui laisse quand même supposer que les policiers sont en capacité de faire leur travail. Mais je dis pas qu'on soit sorti de la difficulté. On constate quand même qu'il y a quand même une légère amélioration. En Guinée-Bissau, ça va un peu mieux. Il y a des pays qui ont décidé d'entreprendre une lutte et qui comprennent qu'en fait, le problème du crime organisé, c'est qu'en fait, ça draine une partie du PIB, ça appauvrit le peuple.
Dans votre ouvrage collectif, le chercheur Jean-Pierre Bas écrit que la Gambie en Afrique de l'Ouest et la Guinée équatoriale en Afrique centrale sont utilisées par les trafiquants comme des états contrebandiers.
Oui, c'était le cas avec Yahya, le précédent président en Gambie, où des bruits couraient depuis très longtemps sur du trafic de cocaïne. Au départ de ce pays, il y avait même des bruits qui circulaient, selon lesquels l'avion du président, le propre avion présidentiel, non immatriculé, aurait servi à transporter des cargaisons de trafic d'armes et de trafic de drogue.
L'avion du président Yahya Jammeh.
Oui, on avait les services de sécurité sénégalais avaient documenté plusieurs sources humaines qui attestaient de cela dans ce pays.
À la frontière Rwanda-Congo-Kinshasa, vous révélez une alliance improbable entre les FDLR Hutus et les milices Tutsis pour l'exploitation et la vente du cannabis.
Oui, oui. C'est pas moi qui la révèle. En fait, c'est documenté par un organisme, l'ONUDC. Il y a des faits avérés qui montrent que des milices Hutus et des milices Tutsis et même une coopération des forces forces armées de la République démocratique du Congo dans ces trafics. Donc en gros, si vous voulez, on passe d'un combat politique qui est financé par des différents trafics, dont le trafic de cannabis, et après la rente étant tellement importante et considérable que ce qui était à l'origine le moyen devient finalement le but.
Dans le trafic international de la drogue, l'Afrique a eu longtemps un handicap, elle n'était pas productrice de cocaïne ou d'héroïne, mais aujourd'hui vous écrivez que tout est en train de changer avec une nouvelle drogue de synthèse.
Alors, elle s'appelle la méthamphétamine, qui a été synthétisée par un chercheur, un chimiste japonais. La méthamphétamine, c'est 3 fois la puissance de la cocaïne dans l'effet du principe actif. Et sur la durée, c'est 10 fois à 12 fois la durée de l'effet de la cocaïne. Donc, on a vu les effets dans les pays d'Asie du Sud-Est. Hein. Il y a eu des effets terribles aux Philippines, en Thaïlande, en Birmanie.
Alors, cette drogue de synthèse, elle est fabriquée où? Au Nigeria, c'est ça?
Pour l'instant, on a 3 démantèlements de laboratoires au Nigeria. Il y a très probablement eu un laboratoire qui a explosé en Guinée-Conakry et il y a de très fortes suspicions d'existence de ce type de laboratoire dans divers états d'Afrique de l'Ouest. On parle du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, pays dans lesquels il y aurait des laboratoires implantés.
Et alors, cette drogue de synthèse, vous nous apprenez qu'elle est non seulement exportée vers l'Asie, mais qu'elle est maintenant écoulée dans toute l'Afrique de l'Ouest sous forme de pilules qui paraissent inoffensives sur les marchés par terre.
Alors, comme c'est un produit qui coûte très peu à produire, l'Afrique elle-même devient un terrain de jeu pour ces trafiquants. Donc, ces drogues-là risquent d'entraîner une très forte déstabilisation et un délitement du tissu social dans un certain nombre de pays, comme ça a été le cas en Asie du Sud-Est.
Et vous-même, avez-vous pu acheter cette drogue sur des pharmacies par terre?
En fait, ils appellent ça des défatigants, hein, les gens qui les vendent. Et d'ailleurs, je suis à peu près persuadé qu'ils ignorent qu'ils vendent un produit stupéfiant. Donc, ce produit-là, j'en ai identifié 3 types. Il y a ce qu'ils appellent le rouge ou le rouget. Il y a ce qu'ils appellent le bleu-bleu. Et il y a aussi une version sous forme de gélule jaune qui est vendue avec une pilule de diclofénac qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et donc, ces produits-là, on les retrouve partout. Et les tests chimiques que nous avons réalisés ont fait qu'ils ont réagi positivement à la méthamphétamine et il s'avère que c'est effectivement de la méthamphétamine.
Des produits achetés sur des pharmacies par terre, c'est ça?
Oui, voilà. Vers la gare de Sogonico à Bamako, vous en trouvez partout. Dans presque toutes les capitales d'Afrique de l'Ouest, vous allez en trouver vraiment partout. Donc, ce qui est étonnant, c'est que c'est le même produit qu'on retrouve sous la même forme partout dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui me laisse supposer qu'on a plus ou moins la même équipe ou une forme de franchise sur le produit qui est vendu un peu partout en Afrique de l'Ouest.
En provenance du Nigeria ?
Effectivement, l'essentiel des laboratoires sont au Nigeria, mais je suis à peu près persuadé qu'il y en a un peu partout en Afrique de l'Ouest.
Afrique de l'Ouest qui devient non seulement une terre de passage, mais une terre de consommation.
C'est justement ce qui m'inquiète. De toute façon, aucune drogue ne transite par une zone sans faire des dégâts. Et donc, l'Afrique de l'Ouest, Australe, du Centre et l'Afrique de l'Est sont devenus de véritables cibles pour les narcotrafiquants.
Laurent Guillaume, merci.